europejskie.
Rozumiem da Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Face au réchauffement climatique, l'ambition de l'Union européenne est grande. Elle entend atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire ne pas produire plus de gaz carbonique ou de gaz à effet de serre, c'est les mêmes, qu'elle sera en mesure d'en absorber. Le pacte vert, le Green Deal en anglais, c'est la grande idée de la commission von der Leyen. Elle va impliquer une mutation dans tous les secteurs de l'économie, que ce soit l'énergie, les transports, l'industrie, l'agriculture, et modifier profondément la vie des citoyens. Il va coûter cher, 1000 milliards d'euros au moins, mais il pourrait être aussi l'occasion de donner un nouveau souffle au projet européen et de renouer avec les préoccupations des citoyens européens. L'Europe sera-t-elle le continent leader contre le réchauffement climatique? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Catherine Chabot.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée La Renaissance, c'est-à-dire le parti d'Emmanuel Macron, et vous êtes une ex-navigatrice en solitaire. Vous avez été la première femme à avoir terminé le tour du monde à la voile en solitaire. C'était le Vendée Globe en 96-97. Vous êtes passée du bleu au vert, en quelque sorte.
Oui, enfin je reste dans le bleu parce que ce Green Deal dont on va parler, j'essaie de le rendre bleu aussi. Donc, mais le vert a toujours été dans ma fibre. Je vais vous dire, ce sont les plastiques que j'ai vus en mer et notamment mais au large de l'Atlantique il y a 30 ans qui m'ont mobilisée. Et voilà, quand j'ai arrêté la compétition, ça fait maintenant 18 ans, j'ai décidé de m'engager pour la préservation de la planète en général et de la mer et du littoral en particulier.
Merci d'être en ligne du Parlement européen de Strasbourg. Jens Hatto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll. Alors, un petit mot pour quand même sur cette fondation.
Oui, c'est une fondation politique allemande qui travaille depuis très longtemps justement sur des questions de la transformation écologique et solidaire.
Clément Sénéchal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable du pôle climat à Greenpeace. Greenpeace, faut-il préciser encore, expliquer ce qu'est Greenpeace? Une ONG, une organisation non gouvernementale, peut-être la plus en pointe sur les thèmes de l'écologie, de l'environnement?
En tout cas, une grande organisation non gouvernementale, totalement indépendante et qui se bat pour la protection de l'environnement.
Une organisation mondiale?
Organisation mondiale.
Et vous êtes le représentant du pôle climat du bureau de Paris.
Je travaille sur le climat, effectivement, pour Greenpeace France à Paris.
Le pacte vert européen est d'une part notre vision d'un continent neutre sur le plan climatique en 2050 et d'autre part une feuille de route dédiée à cet objectif. C'est en quelque sorte 50 actions pour 2050. Notre objectif est de réconcilier l'économie avec notre planète, de concilier la façon dont nous produisons, la façon dont nous consommons avec notre planète et d'œuvrer pour les Européens.
And to make it work for our people.
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, c'était le 11 décembre dernier lors de l'annonce du pacte vert, lors du début de sa prise de fonction. Une priorité de la nouvelle présidente de la Commission, Jens Althoff, peut-on dire que le pacte vert, c'est un peu la réponse européenne coordonnée à l'accord de Paris sur le climat qui n'engageait lui que les pays signataires et dont l'objectif, on peut le rappeler, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré seulement?
Oui, je crois déjà c'est une bonne nouvelle, ce pacte vert européen, comme vision, comme idée, comme objectif, mais c'est aussi absolument nécessaire, c'est une urgence. Parce que si on n'arrive pas là maintenant à transformer vraiment l'Europe de façon à avoir une Europe carbone neutre au plus tard 2050, ça va être trop tard. Donc là, c'est aussi vraiment une grande urgence de le faire. Et ce pacte vert européen est une bonne nouvelle. Par contre, il faut voir, elle a dit aussi la von der Leyen, c'est une vision, ce sont des objectifs. Mais jusqu'à maintenant, ce ne sont pas encore des actions concrètes. Là, on parle encore plutôt d'une agenda pour des actions. Donc là, jusqu'à maintenant, on est plutôt dans une vision, une idée et des choses annoncées, mais pas encore dans le concret.
Alors justement, Clément Sénéchal, s'il faut résumer ce pacte vert, je serais tenté de dire que c'est une ambition, une volonté politique, une prévision du montant des coûts, donc on a évoqué 1000 milliards d'euros, une prise de conscience que tous les secteurs seront impactés, mais pour l'instant, c'est une idée.
Oui, alors effectivement, c'est une prise de conscience, mais pour l'instant, on en reste au stade du slogan politique. Et quand on regarde un petit peu les derrière, qu'est-ce que ça veut dire concrètement le Green Deal ? Eh ben, on a déjà un certain nombre de signaux assez préoccupants qui s'accumulent. Le premier de ces signaux, c'est le fait que pour l'instant, l'Union européenne ne se donne pas les bons objectifs. Et donc, si on se donne pas les bons objectifs, on ne risque pas d'avoir les
bonnes politiques. Alors, quels sont les bons objectifs ?
Derrière, la neutralité carbone à 2050, c'est beaucoup trop tard. La neutralité, elle devrait arriver à 2040 pour être conforme à ce que disent les scientifiques. Pour l'instant, hein, pour remettre les choses dans leur contexte, l'Union européenne fait défaut sur l'accord de Paris. C'est-à-dire que les engagements qui sont sur la table, c'est plus 3 degrés à la fin du siècle. Et l'Union européenne avait jusqu'au 9 février dernier pour mettre sur la table une nouvelle feuille de route avec des objectifs plus ambitieux. Elle ne l'a pas fait, et non seulement elle ne l'a pas fait, mais elle envisage de reporter cette discussion après l'été. Or, il sera trop tard après l'été pour que les chefs d'État se mettent d'accord sur de nouveaux objectifs avant la COP26. La COP26, elle est cruciale parce que c'est le moment où on va mettre en œuvre l'accord de Paris.
Alors, si la COP26, ça va se passer à Glasgow et ça va se passer en novembre.
Tout à fait. Et donc, si l'Union européenne arrive les mains vides à la COP26 de Glasgow, ça veut tout simplement dire qu'elle prend la responsabilité de défaire l'accord de Paris. Donc l'urgence, c'est ça aujourd'hui. C'est déjà que l'Union européenne se dote des bons objectifs.
Alors Catherine Chabot, est-ce que l'Union européenne se donne des bons objectifs ou pas? Ou est-ce qu'elle est un petit peu en retard? Est-ce qu'il y a un problème de calendrier?
Alors moi, je crois qu'il faut d'abord préciser une chose, c'est que l'Union européenne, depuis déjà quelques années, travaille de manière, on va dire, en silo sur certains sujets. Si je peux évoquer le sujet des plastiques que je connais bien, elle a travaillé sur la réduction des plastiques à usage unique, etc. Elle a travaillé sur plein de directives qui vont déjà dans le bon sens. Le gros avantage du Green Deal, c'est d'avoir une vision stratégique, c'est-à-dire que on englobe l'intégralité du sujet parce que on est face à quatre dimensions dans la crise environnementale. Il y a le climat, il y a la perte de biodiversité, il y a l'impact croissant aussi des pollutions à la fois sur les écosystèmes et sur la santé, et il y a également l'épuisement des ressources. Et c'est cette vision stratégique, moi je trouve, même sur les sujets que je connais un peu mieux, qui sont les sujets maritimes, on manque souvent de vision stratégique. Donc le gros avantage, c'est cette vision stratégique. Après, dire que l'Union européenne n'a pas de bons objectifs, l'objectif pour essayer de réduire à 1,5 degré, c'est effectivement la neutralité carbone à 2050. Et il suffit effectivement de voir les courbes des scientifiques qui demandent absolument qu'on fasse plonger les émissions de gaz à effet de serre, mais tout de suite, avec un point de passage en 2030, de réduction de 50 à 55% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, bien évidemment, je voudrais que tout commence tout de suite et qu'on commence déjà par réduire le chauffage et la climatisation dans les espaces du Parlement européen ou de la Commission, parce que, comme dans les hôtels, parce qu'on est souvent surchauffé. Malgré tout, il va falloir embarquer l'intégralité de la population, les entreprises, les citoyens, etc. Et en fait, la vision est donnée. Maintenant, nous allons travailler sur les lois qui ne sont pas rédigées. Je peux vous dire qu'ici, au Parlement européen, et le groupe Renew et la délégation Renaissance vont peser tout leur poids. On va travailler sur une loi pour le climat. On va travailler sur une stratégie pour la biodiversité. On va travailler sur l'économie circulaire, une loi sur l'économie circulaire. On va travailler sur les trois secteurs qui sont très émetteurs, sur le bâtiment, avec la rénovation des bâtiments, sur le transport, bien évidemment, avec la réduction des pollutions du secteur à terre, mais aussi en mer. Moi, pardonnez-moi, j'insiste, c'est parce que j'essaie aussi de faire en sorte que ce Green Deal soit blue. Je travaille pour un Green Blue Deal. Et le troisième secteur, c'est l'agriculture, avec une stratégie qu'on a appelée Farm to Fork, donc de la ferme à l'assiette. Effectivement, il va falloir financer tout ça. Mais moi, je trouve que ce qui est très intéressant, et pourquoi moi j'ai ce coup-ci décidé de m'engager dans ce mandat, après avoir refusé depuis 2004, c'est parce que je pense qu'au niveau, pour embarquer l'intégralité des citoyens, des États, mais aussi le monde, parce que les enjeux dont on parle, ils sont planétaires. Il faut se situer au niveau européen, il faut massifier les investissements. Il faut aussi, quand on va travailler sur des innovations, parce que la transition, elle suppose qu'on conçoive différemment, il y a énormément de créativité à émerger. Et aussi, il faut que l'Union européenne, elle envoie un signe très fort vis-à-vis au reste du monde, qui l'attend aussi. Moi, j'étais à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre, et je peux vous dire que tout le monde nous a passé le message qu'ils attendent une Union Europe unie, Europe qui entraîne le reste du monde.
Catherine Jobon, on va voir si finalement l'Europe est capable d'entraîner le reste du monde. Bon, Clément Sénéchal, j'ai voulu que vous n'étiez pas d'accord sur la date 2040. On va pas, c'était un peu ça votre intervention.
C'est très important, c'est-à-dire que là, on est dans la mystification. On nous dit -50, -55%, c'est un objectif réaliste pour lutter contre le changement climatique. C'est faux. C'est faux. À un moment donné, il faut lire ce que disent les scientifiques, il faut lire les rapports scientifiques. Il y a un rapport qui est sorti juste avant la dernière COP25, un gap report de l'ONU qui disait quoi? Il faut réduire de 7,6% par an les émissions de gaz à effet de serre si on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris, le 1.5 que citait madame la députée. Alors, donc ça veut dire, dire qu'à 2030, ça veut dire, on fait un calcul, c'est très simple, il suffit de calculer, ça veut dire qu'à 2030, c'est -68% de gaz à effet de serre pour l'Union européenne, elle devrait même faire plus en vertu de la responsabilité partagée. Donc déjà, arrêtons de se gargariser sur des objectifs qui ne sont pas les
bons. On va essayer de pas citer trop de chiffres parce que nos auditeurs vont immédiatement se perdre et passer sur une autre radio. Le Green Deal, pour les auditeurs, pour les citoyens, ça signifie un certain nombre de choses. On va prendre quelques exemples. L'automobile, de moins en moins de gasoil et d'essence, de plus en plus électrique. L'industrie abandonne petit à petit l'emballage, le suremballage, adieu les bouteilles d'eau minérale, alors qu'on en a ici dans ce studio. Les transports, la place de l'avion se réduit. La construction, on va vers des habitations à énergie neutre. La production d'électricité, évidemment, de moins en moins de centrales au charbon, au gaz, de plus en plus d'éoliennes, de centrales solaires. On va laisser provisoirement de côté l'énergie nucléaire qui ne produit pas de gaz à effet de serre, mais qui pose d'autres questions. C'est pas le sujet de l'émission ce soir. Ça s'appelle quand même une révolution, Jens Althoff, pour les citoyens qui vont vivre aussi avec ce Green Deal.
C'est une révolution, c'est un très grand défi. C'est vrai, vous avez absolument raison que les objectifs sont pas assez hauts, c'est vrai. Par contre, déjà, les objectifs qui sont là, y arriver vraiment au niveau politique, c'est un grand défi. Il faut le dire, ça va pas être facile. Par contre, il y a une chose que je trouve là-dedans qu'il faut pas oublier, c'est aussi une très grande chance. C'est pas quelque chose où maintenant il faut avoir peur de dire. Parce que si vous regardez autour, l'Europe, y a deux choses là-dedans. Une chose, c'est que l'Europe manque vraiment des investissements en ce moment. Ça, vous pouvez regarder en France, en Italie, partout. Donc là, vous pouvez combiner le fait que là, il faut vraiment avoir une grande offensive des investissements avec une transformation sociale et écologique. Donc là, vous avez les deux clés. Vous pouvez faire ça en ce moment et en même temps aussi, vous voyez que maintenant, si vous regardez au niveau global, vous avez quand même là les États-Unis qui sont dans le numérique, qui avancent beaucoup. Vous avez aussi la Chine qui est dans le numérique et dans beaucoup d'autres vraiment secteurs. Et l'Europe a vraiment la grande chance d'être le premier acteur mondial qui montre que c'est possible de transformer l'économie et la société vraiment vers une perspective carbone neutre. C'est une très grande chance. Et moi, je suis toujours très impressionné de voir, par exemple, à quel point, d'ailleurs, il me semble, les régions, les communes et aussi les départements, par exemple en France, ils avancent beaucoup plus que le niveau national sur ça. Là, j'étais juste dans le département de la Gironde, c'était impressionnant de voir tout ce qu'il y a comme initiative, comme idée. Donc il y a des initiatives, il y a des idées, il y a des solutions. Par contre, je dis très clairement, et là, pardon aussi madame la députée, mais aussi pour le groupe de Renew, parce qu'il y a des acteurs économiques qui vont perdre l'argent. Il y a des grands acteurs économiques qui sont dont l'industrie de fossiles.
Il y aura des gagnants, des perdants. On y viendra un petit peu
et
dans
ceux
la deuxième
qui vont
des
perdants, ils sont une grande structure de lobbying à Bruxelles.
Évidemment.
Et jusqu'à maintenant, j'ai pas vu que le groupe de Renew est un groupe qui serait vraiment ferme contre ces lobbying. C'était plutôt parce que dans ce groupe-là, il y a le FDP allemand. Les FDP allemands en Allemagne, ils sont les premiers défendeurs du charbon, par exemple. Premiers défendeurs de charbon et de l'industrie de charbon. Ils sont dans les régions comme, par exemple, Nordrhein-Westfalen, au gouvernement, où ils sont ceux, ils sont pas entrés au gouvernement 2017 au niveau fédéral à cause du charbon, surtout aussi. Donc là, je ne vois pas encore, même dans le groupe de Renew, comment vous pouvez vraiment avancer sujet.
On verra que les contradictions sont nombreuses au sein de l'Europe, au sein du Parlement européen et notamment au sein du groupe Renew. C'est vrai que tout le monde parle de plus en plus de verdir, d'être un peu plus écolo. On est en pleine campagne pour les municipales en France. On est de plus en plus vert, même les candidats qui, a priori, ne l'étaient pas tant que ça. Les citoyens sont-ils prêts à suivre cette révolution dont on a compris qu'elle serait vraiment révolutionnaire? Nadia Belmafoud est allée à la rencontre des Parisiens du côté de Montmartre. C'est un quartier où les écologistes font généralement de bons scores. Et elle a tendu son micro en leur demandant ce qu'eux étaient prêts à faire personnellement pour sauver la planète.
En soi, moralement, il faudrait le faire. Mais je pense que je ne le ferai pas personnellement, à moins que ce soit indiqué une véritable réglementation là-dessus.
Moi, j'essaye déjà de monter des assos dans tout ce qui est lycée, pour le tri, de manger beaucoup moins de viande et tout ça. Donc ça ne me poserait aucun problème de continuer et d'aller plus loin dans ces démarches-là.
Rien de plus que ce que je fais depuis des années, tranquillement. Glisser doucement vers le végétarisme, marcher beaucoup, faire beaucoup de vélo, faire l'amour moins souvent peut-être, pour éviter le réchauffement, et puis vieillir doucement.
Ce sont des petits efforts du quotidien. Je choisis par exemple mes produits en magasin en fonction de l'emballage. Je fais des efforts sur le tri. Et puis, j'essaie évidemment de rien jeter dans les rues.
Mais nous avons déjà changé nos comportements, vous savez. Et puis, les personnes de notre âge avaient déjà pris conscience depuis longtemps de ce problème. Donc, pour nous, c'est plus facile. Nous, on trie nos poubelles, on essaye de ne pas gaspiller de l'eau, pas trop de produits chimiques. On évite les emballages, on fait notre cuisine, vous voyez, c'est un tas de petites choses comme ça, les unes après les autres, qui font que nous sommes plutôt écolos, puisque le mot est à la mode.
Tant que nos politiques feront un peu comme les curés, fait ce que je dis et pas ce que je fais, je vois pas pourquoi je me forcerais beaucoup plus que ce que je fais actuellement.
Faire évoluer le système de chauffage, par exemple dans notre maison, limiter encore plus les déplacements en voiture, mais ça nécessiterait forcément aussi une évolution au niveau de l'État également pour permettre d'avoir plus d'offres. Par exemple, s'il n'y a pas de transport en commun, à des horaires qui nous permettent d'aller travailler, on ne peut pas prendre les transports en commun.
Après, c'est vrai qu'on se sent quand même des fois un peu petit et on se dit, est-ce que ce qu'on fait à notre échelle, ça a vraiment un impact par rapport à des grosses sociétés, ce genre de choses. Mais bon, on fait quand même.
Oui, je fais déjà, je trie mes déchets. Après, pour acheter une voiture électrique, je pense que la voiture électrique avec les centrales nucléaires, tout ça, je pense pas que ça soit la solution.
Je fais des semaines sans plastique. J'essaye de ne rien acheter avec du plastique. Par exemple, les fromages, je prends que des camemberts alors que j'aime pas ça. J'oblige tout le monde à manger du camembert à la maison parce que les boîtes, elles sont en carton bois. J'essaye de faire au mieux pour effectivement maintenir cette planète un peu plus propre.
Alors un projet à long terme, sur les 30 ans à venir, qui engage des élus qui ne sont pas là pour 6 ans, on sent qu'il y a quand même, il se passe quelque chose. Clément Sénéchal, quand vous entendez ces citoyens pris un peu au hasard, mais on est quand même à Paris, dans un quartier relativement privilégié, est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage entre dire, je vais faire la semaine du camembert de façon, parce que c'est emballé dans du bois, et c'est ma façon de contribuer, c'est sympathique. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'à votre avis, vous qui êtes une ONG, représentante d'une grande ONG Greenpeace, il y a un décalage entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait aujourd'hui au niveau des citoyens?
Les citoyens et les citoyennes, ils font ce qu'ils peuvent en réalité. Maintenant, ce qu'ils attendent, c'est qu'effectivement les législations changent, que le modèle économique change, que les décideurs politiques prennent leurs responsabilités. La question de l'environnement, c'était la priorité numéro un des citoyens dans les sondages lors des dernières élections européennes. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron et le groupe Renaissance a placé précisément l'écologie au cœur de son discours sur les élections européennes et qu'on a ce groupe au Parlement qui s'appelle Renaissance, qui a été élu précisément pour mettre en œuvre un Green Deal qui soit ambitieux.
Non mais on voit bien quand même la contradiction. Les gilets jaunes, le point de départ des gilets jaunes, c'est une augmentation de quelques centimes du prix du gasoil. Donc on sent bien qu'il y a un décalage entre la perception que peuvent avoir les gens et puis l'effort que les gens prennent.
Non, j'aimerais vraiment dire que si vous regardez, ce sont souvent surtout les citoyens qui avancent, mais il faut avoir vraiment des choix. Je vous dis tout simplement, une famille aujourd'hui, une famille avec deux enfants qui veut, par exemple, partir en vacances en Italie. Ils veulent partir et ils ont un budget qui n'est pas très grand. Aujourd'hui, avec quand même, aller par l'avion, par une entreprise de low cost, par exemple, c'est beaucoup moins cher que partir en train. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'aujourd'hui encore, on ne peut pas choisir?
on ne peut pas choisir vraiment justement l'option qui est mieux pour le climat. C'est ça, il faut avoir du vrai choix. Et c'est aussi, par exemple, vous... Mais et c'est possible. Nous, on va comme fondation justement publier là un atlas autour du plastique, avec toutes les questions plastiques, où est le plastique. Madame la députée a parlé du plastique et l'importance que je peux absolument souligner. Mais là, vous voyez aussi, il y a beaucoup d'autres solutions. Mais il faut aussi donner le choix aux citoyens. Et pas dire les citoyens devraient faire et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui veulent faire, qui sont en avant, mais il faut donner la possibilité. Et là, on a un grand manque de ce côté-là.
Fin du mois, fin du monde. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète, justement. À tout de suite.
Cruzamento toute Europa.
Раскруча Европы.
Ставродромы της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Face au réchauffement climatique, l'ambition de l'Union européenne est grande. Elle entend atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire ne pas produire plus de gaz carbonique ou de gaz à effet de serre, ce sont les mêmes, qu'elle sera en mesure d'en absorber. Le pacte vert, le Green Deal en anglais, c'est la grande idée de la Commission von der Leyen. Elle va impliquer une mutation dans tous les secteurs de l'économie, l'énergie, les transports, l'industrie, l'agriculture, et modifier profondément la vie, le comportement des citoyens. Il va coûter cher, 1000 milliards d'euros au moins, et on va parler de ça dans la deuxième partie de l'émission, mais il pourrait aussi être l'occasion de donner un nouveau souffle au projet européen et de renouer avec les préoccupations de ces Européens, de ces citoyens. L'Europe sera-t-elle le continent leader contre le réchauffement climatique? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Catherine Chabot, elle est eurodéputée Renaissance, elle est en duplex du Parlement européen à Strasbourg, et avant d'être eurodéputée, elle a été une grande navigatrice, la première femme à avoir terminé le tour du monde à la voile en solitaire, donc elle a un regard particulier évidemment sur les océans. Jens Althoff est le directeur du bureau de Paris de la fondation Heinrich Böll, qui est la fondation des Verts allemands. Clément Sénéchal est le responsable du pôle climat à Greenpeace. Alors, c'est un projet, Catherine Chabot, qui coûte cher. On parle de 1000 milliards d'euros. Alors, je suis toujours un peu rêveur et sceptique face à ces chiffres astronomiques qui tomberont. C'est à la fois beaucoup et pas tant que ça sur 7 ans. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Où trouver cette somme? Une question est sûre, alors qu'on est en train de discuter du budget de l'Union européenne, le budget de l'Union européenne n'y suffira pas, Catherine Chabot.
Oui, si vous me permettez, avant de répondre à cette question, parce que vous avez eu des échanges sur lesquels je n'ai pas pu rebondir, je voudrais dire aux représentants de Greenpeace que, bien évidemment, moi-même, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à atteindre, à réduire, mais beaucoup plus rapidement. Moi, pour moi, les choses ne vont pas assez vite, c'est évident. Et pour répondre aussi aux représentants de la Fondation Heinrich Böll, bien évidemment, au sein de Renew, on discute. Je peux vous dire que on va dire que tout ne fait pas. Ça fait débat, enfin, bien évidemment, ça fait débat. Ce qui est important, c'est, et je pense que c'est peut-être l'intérêt avec Renew, c'est de ne pas avoir une position dogmatique, parce que ce n'est pas avec des dogmes qu'on va faire changer de modèle. On est devant un changement de modèle dans lequel on doit véritablement engager toute la population. Je voudrais aussi
Alors,
dire une chose...
Catherine Chabot, je voudrais quand même, 1000 milliards, on les trouve où et comment?
Alors, il y a une partie du public et une partie du privé. Pour l'instant, les choses sont posées sur la table. Il va y avoir un fonds de transition équitable qui mobilisera les ressources du budget de la politique régionale de l'Union européenne. Il y a aussi le programme, vous savez, InvestEU, avec des fonds provenant de la Banque européenne d'investissement. Vous savez, c'est cette banque qui...
Oui, bien sûr. Ça, ce sont un peu les outils. La Banque européenne d'investissement, ce sera un outil. Mais 1000 milliards, ça se trouve pas quand même sous le sabot d'un cheval. Alors, on peut réorienter une partie du budget de l'Union européenne. Mais il faut aussi peut-être le financer par emprunt, on peut peut-être financer par des taxes nouvelles, on peut aussi le financer par la dette, et évidemment on va parler du pacte de stabilité. Alors quel est votre point de vue? Je vous pose cette question parce que je sais que vous ne pourrez pas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission.
C'est pas non plus le sujet sur lequel je travaille. En revanche, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que par exemple, ce qu'on appelle l'ETS, vous savez, ce marché des émissions du carbone, il y a une véritable interrogation pour savoir si des secteurs qui aujourd'hui ne sont pas concernés par ce marché du carbone vont entrer ou non, et c'est la volonté de la présidente de la Commission d'étudier l'intégration du maritime, du secteur maritime et de l'aviation dans ce marché du carbone. L'idée avec, par exemple, ce marché-là, c'est que l'argent qui pourrait pourraient être récoltées viendraient pour la transformation, la transition de ces deux secteurs, parce qu'ils sont particulièrement émetteurs. Alors pour le transport maritime, il est peut-être aujourd'hui pas le plus émetteur, mais il est malgré tout très émetteur. Et l'augmentation du commerce mondial va augmenter, il va falloir répondre. Il y a aussi cette taxe carbone aux frontières et l'augmentation des ressources propres des États aussi qui vont permettre de financer. Tout est posé sur la table. Je pense que de toute façon, on a à la fois aussi besoin de financer aussi des pays et des régions qui n'ont pas forcément les moyens. Il y a ce fonds juste pour lequel...
Alors, Catherine Chabot, c'est un peu l'idée que tous les pays ne sont pas sur la même ligne de départ. Il y a des pays qui sont plus dépendants du charbon que d'autres. C'est par exemple le cas de la Pologne et de l'Allemagne. Et là, effectivement, il y a l'idée d'un fonds de transition juste, c'est-à-dire d'avoir un fonds qui aiderait un peu plus ces pays qui sont très dépendants du charbon et pour qui ça va être compliqué de passer à la neutralité carbone par des fonds un peu supplémentaires. Ça s'appelle le fonds de transition juste, et c'est, je crois, que les Polonais attendent beaucoup de ce fonds de transition juste, parce que pour l'instant ils se sont un peu pas vraiment impliqués dans cette idée d'atteindre le niveau zéro carbone en 2050.
Mais si je peux vraiment dire exactement sur ça, le fonds de transition juste, parce que c'est une question clé là des dons, et là on peut quand même voir aussi quelques problèmes. Alors dans ce fonds de transition juste, jusqu'à maintenant sont prévus 7,5 milliards de l'argent qui est vraiment nouveau. 7,5 milliards.
C'est pas beaucoup.
Seulement pour l'Allemagne, pour les sortir du charbon. Le gouvernement d'Allemagne va dépenser pour cette sortie du charbon 38 milliards seulement pour l'Allemagne. Et la Pologne est beaucoup plus dépendante vraiment du charbon. Donc là, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas assez de l'argent et qu'il faut justement, pour moi, ce que vous avez dit, Daniel, l'argent est les nerfs de la guerre. Et justement, là, pour ce European Green Deal, le pacte vert européen, il faut plus. Et une grande question pour moi, ce sont deux ressources, deux choses. Une chose, là, il faut mettre plus, bien sûr, maintenant, dans le budget européen. Là, on va voir les négociations. Ça va être même peut-être bouclé seulement sous la présidence de l'Allemagne dans la deuxième moitié de l'année. Et là aussi, c'est très important que, par exemple, le pays comme l'Allemagne, vont contribuer plus. Là, le Parlement, Madame la députée le sait très bien, le Parlement demande 1,3% de PIB. Bon, jusqu'à maintenant, le gouvernement allemand est jusqu'à 1%. Et là, il y a une question importante, juste pour dire ça encore. Nous, par exemple, comme Fondation et d'autres en Allemagne, essayent vraiment de convaincre dans le débat public que l'Allemagne va contribuer plus maintenant pour le budget européen. Par contre, si, par exemple, la France continue, et les débats en France, d'essayer que le nucléaire va être une part dans une telle transition juste et que tous les problèmes financiers du nucléaire va être financés par un pacte vert européen, ça va tuer tout de suite le débat en Allemagne. Vous croyez pas qu'en Allemagne, les gens vont être prêts de donner plus de leur argent, le contribuable va donner plus d'argent que Cattenom, qui est juste à la frontière de la Sarre, qui est une centrale nucléaire qui est vraiment vieille, qui est très dangereuse, qui vont être prêts à donner plus au niveau européen pour financer que Cattenom peut être quand même plus longtemps encore en fonction. Non. Ça, là, vous voyez à quel point les choses ils sont liées, à quel point c'est important que Pascal Canfin, il a demandé il y a des années.
Alors, Pascal Canfin, il faut expliquer qui est Pascal Canfin. C'est l'eurodéputé Renew, président de la commission de la défense. Voilà. Tout le monde ne sait pas qui est Pascal Canfin.
Non, pardon, mais il a dit qu'il faut sortir du charbon et du nucléaire en même temps, une vraie vision pour les énergies renouvelables.
Jens Saltoff, il y a un problème qui concerne vraiment les Allemands, c'est le pacte de stabilité. C'est-à-dire que le budget public ne doit pas avoir un déficit supérieur à 3% du PIB. Est-ce qu'on ne peut pas financer aussi ce pacte vert, ces 1000 milliards, en étant plus souple sur la notion de dette? Et là, il y a un blocage terrible des Allemands, il y a une demande des Français d'être beaucoup plus libéral, d'être beaucoup plus souple. Et là, il y a un non des Allemands sur le dogme du pacte de stabilité, les 3% de déficit du PIB. Alors, comme vous n'êtes pas le représentant d'Angela Merkel, mais vous êtes néanmoins allemand, vous avez la sensibilité, c'est toujours important pour les Allemands, ce pacte de stabilité. Mais est-ce que ce ne serait pas le moment de dire l'enjeu de la planète, c'est un peu plus important que le pacte de stabilité et les déficits de
3%. Absolument, là vous avez raison. Je trouve aussi que, justement, là aussi l'Allemagne devrait être beaucoup plus souple. Et cette idée qui est discutée de dire qu'il faut mettre en dehors les investissements pour ces transformations, en dehors ce pacte de stabilité, il me semble que ce sont des idées très intéressantes. Par contre, en Allemagne, ça va être très difficile. Mais je vais vous dire une chose, qui quand même, il y a tellement de subventions encore aujourd'hui, dans tout ce qui est
l'industrie de fossiles, tout ce qui est dans, va dans, pas dans le bon sens, si vous déjà coupez ça, là vous avez des milliards et des milliards. Hein. Par exemple, en Allemagne, comment est quand même subventionné par des avantages pour des impôts et tout ça, sous le secteur d'automobile aujourd'hui, et aussi dans d'autres États. Donc déjà là, vous avez quand même beaucoup de possibilités, même dont... Si vous gardez le pacte de stabilité, il y a beaucoup de possibilités quand même d'avoir plus de possibilités pour un investissement. Et il y a une deuxième chose, juste pour finir ça, ce que je trouve très important, et là aussi malheureusement c'est l'Allemagne qui bloque et la France qui avance là très clairement, c'est de vraiment avoir des ressources propres pour l'Union européenne. Parce que comme ça, il ne faut pas parler aux contribuables et tout ça, des ressources propres comme une taxe sur le numérique par exemple,
alors,
ou
la taxe,
l'idée d'une taxe carbone aux frontières.
La taxe carbone à la frontière, ça peut être évidemment une ressource propre de voilà. L'Union européenne.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, nous sommes avec Jens Althoff, directeur du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll, avec Catherine Chabot, eurodéputée Renaissance en ligne de Strasbourg, et avec Clément Sénéchal, responsable du pôle climat à Greenpeace. Le Green Deal, la grande aventure, le grand espoir de l'Union européenne. Alors, Clément Sénéchal, comment on passe d'un mix énergétique très carboné à un mix énergétique décarboné sans passer par la case nucléaire?
Bah déjà, il faut de l'investissement public, et il faut de l'investissement public dans les énergies renouvelables. Donc je vais revenir quelques secondes sur la question des financements. Ces 1000 milliards, effectivement, c'est majoritairement de la poudre aux yeux, puisqu'il s'agit d'abord d'argent recyclé et d'argent imaginaire. De l'argent frais, en fait, c'est que 7,5 milliards qui sont dans le fonds de transition juste. 7,5 milliards sur 7 ans. C'est-à-dire qu'en France, il manque par exemple 15 à 20 milliards par an. Or, selon les calculs qui sont faits, la France recevrait 400 millions.
Oui, il y a aussi l'idée d'avoir un effet de levier.
400 voilà. millions.
Oui, mais ça, l'effet c'est de passer d'une économie, d'une croissance verte. Il y a aussi, voilà.
Ça, c'est parfaitement aléatoire. Et ça veut dire quoi? Que finalement, la puissance publique prend le risque. On expose le citoyen européen au risque pendant que les investisseurs privés rapporteront les gains chez eux. Comment on trouve l'argent? Ça, c'est une question intéressante. Déjà, il y a 55 milliards de subventions aux énergies fossiles en moyenne dans chaque pays européen. Donc là, il y a déjà beaucoup d'argent à prendre. Comment on trouve l'argent? Déjà en évitant de le gaspiller, par exemple, comme vient de le faire le Parlement européen et notamment le groupe Renew qui a voté pour, c'est-à-dire en le gaspillant dans des listes, des projets d'intérêt soi-disant communs, dans lesquels il y avait 55 projets gaziers géants et qui représentaient, dont la majeure partie était en plus parfaitement inutile sur le plan énergétique et qui représentait plus de 30 milliards d'euros. Donc on continue.
C'est pour le moins une contradiction.
Donc c'est une grosse contradiction. C'est-à-dire que madame la députée, elle veut qu'on aille plus vite sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en même temps le groupe Renew, en même temps, continue à financer des projets extrêmement émetteurs avec l'argent du contribuable.
Catherine Chabot, est-ce que vous êtes encore avec nous?
Non, est-ce que juste là-dessus, pardonnez-moi, mais d'abord sur ce sujet des infrastructures, etc. Justement, le groupe Renew est intervenu et notamment la délégation Renaissance est intervenue auprès du vice-président de la Commission, Frans Timmermans, qui, vous l'avez certainement vu dans la semaine, a vraiment précisé que sur les projets d'infrastructures qui posent des problèmes et qui moi me posent des problèmes, parce que si on doit stocker du gaz de schiste qui vient des États-Unis, ça nous pose des problèmes. Ils seront passés par le tamis du Green Deal. Une chose essentielle, parce que comme je vais devoir vous quitter, qu'on n'a pas dite jusqu'à présent, c'est que pour s'engager dans la transition et pour finalement aussi réduire cette masse financière, et on avance des chiffres, mais personne n'a vraiment conscience de ce que ça va coûter, il faut vraiment que nous tous nous engagions dans la sobriété et l'efficacité. Quand on parle de changer de modèle, il faut écouter les citoyens qui ont répondu à votre micro-trottoir tout à l'heure. Ils le disent, eux-mêmes sont en train de changer leurs pratiques tous les jours. Quand, en 91, je me suis retrouvée avec des plastiques en plein milieu de l'Atlantique, je ne me suis pas dit où sont les affreux pollueurs, et pardonnez-moi, c'est ce que font souvent, malgré tout, ceux qui ne sont pas forcément en responsabilité. Les affreux pollueurs, je me suis sentie une affreuse pollueuse. Je me suis dit, comment en est-on arrivé là, collectivement, et comment je peux agir à mon échelle. Et je pense que c'est absolument essentiel. Bien évidemment, il faut du leadership, et ça je pense que la France en a sur le sujet, et je pense que l'Union européenne est en train de le prendre sur ce sujet, mais c'est notre travail à tous. Moi, tous les jours, je me demande mais comment je peux faire mieux. Donc voilà, et effectivement, il va falloir on l'a dit, trouver des moyens. Un dernier mot, moi je veux que ce pacte vert soit aussi un pacte bleu. Dans la COP26 qui va permettre de faire le point à la fin de l'année sur les engagements des États dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, il est absolument essentiel aussi qu'on intègre les solutions qui sont basées sur l'océan, sur la restauration des écosystèmes marins et côtiers. Quand on défend la reforestation à terre, il faut aussi défendre la reforestation, notamment de la mangrove, qui fait partie de ce qu'on appelle le blue carbon. Il faut développer, pas uniquement la transition énergétique du transport maritime à terre, mais aussi en mer, développer les énergies marines. Et malgré tout, alors vous avez un bon camarade chez Greenpeace qui s'occupe de tout ce qui est océan, qui fait partie des gens qui font avancer les choses, et on travaille très très bien ensemble. Moi, je suis cofondatrice de la plateforme Océan et Climat pour faire entendre la voix de l'océan. Voilà, j'avais pas envie de vous quitter sans vous dire que ce pacte vert, il doit être aussi bleu. Merci à vous et je vous souhaite bon vent et bonne journée.
Merci Catherine Chabot d'avoir été avec nous. Je sais que vous avez des obligations. Merci d'avoir été un petit peu avec nous. Donc je vous ai laissé parler un peu plus longtemps pour que vous puissiez exprimer votre point de vue. Clément Sénéchal, alors on sent que c'est compliqué, qu'il y a des contradictions à tous les niveaux, partout, dans le groupe Renew, au sein du Parlement européen, au sein même des institutions européennes et aussi bien évidemment chez les différents acteurs économiques. On peut s'attendre quand même à ce que les lobbies de l'automobile, de l'énergie fossile, du plastique, etc. Se mettent en place, bien évidemment, et essayent d'amoindrir, de retarder la mise en place de ce Green Deal, dont on a déjà compris qu'il était extrêmement compliqué, qu'il va coûter très cher et qu'il va toucher tous les citoyens européens et les autres.
Oui, bah effectivement, les lobbies sont très très actifs à Bruxelles, ils sont très très actifs à Paris également. Mais aujourd'hui, il y a une force citoyenne, une force politique qui est dans le peuple européen pour réclamer ces changements systémiques qu'appellent à la fois les scientifiques et à la fois les sociétés civiles. Voilà, aujourd'hui, les gens qui sont en retard, ce sont les gens qui sont aux responsabilités et qui malheureusement oublient de les prendre correctement. Je voudrais reprendre quelques sujets. Par exemple, on a parlé de La députée a parlé de la question de la reforestation, mais la priorité, c'est déjà d'éviter la déforestation. Et là, ça fait des années qu'il y a un plan d'action contre la déforestation qui est dans les tuyaux de l'Union européenne et qui n'aboutit à rien. Et là, malheureusement, Pascal Canfin, justement, qu'on vient de citer, et les institutions européennes, la Commission européenne, ont mis ce sujet sur la table, mais pour promouvoir une fausse solution qui est celle des labels, au lieu de dire il faut réglementer par des lois contraignantes
les labels qui
diraient que tel produit est soutenable, durable, etc., ce qui est une solution de marché, c'est-à-dire que les acteurs eux-mêmes en fait se distribuent des bons points. Aujourd'hui, on a besoin de lois contraignantes qui forcent les acteurs économiques, sous peine de sanctions, de vérifier que les produits qu'ils importent n'ont pas contribué à la déforestation dans les pays exportateurs. Pareil sur l'agriculture, il y a une stratégie farm to fork qui a été évoquée. Le problème, c'est que pour l'instant, elle ne mentionne pas la question de la réduction de la consommation de viande et la réduction de l'élevage, qui sont pourtant responsables de 12 à 18% des émissions de gaz à effet de serre européennes. Voilà, donc sur ces sujets-là, il va falloir vraiment beaucoup plus d'ambition que ce qu'il y a actuellement dans le Green Deal. Sinon, on restera au niveau du slogan et la déception des peuples sera immense. Il faut pas après, on pourra plus se plaindre, si vous voulez, qu'il y a une désaffection grandissante des citoyens pour ces élections européennes si l'Union européenne elle-même n'est pas à la hauteur.
Yann Saltov, est-ce que ça va être aussi pour l'Union européenne d'arrêter de faire preuve de naïveté en mettant par exemple en place cette fameuse taxe carbone aux frontières du grand marché européen pour les produits en provenance de pays qui n'ont pas les mêmes exigences que nous les Européens en matière environnementale, fiscale ou sociale? C'est pas complètement l'objet de la taxe carbone, mais on va vite y venir. Où en est-on dans la mise en place de cette taxe carbone?
Bon, déjà, c'est pas si facile avec cette taxe carbone. Il me semble deux choses. Premièrement, c'est absolument, c'est nécessaire et c'est très important parce que si vous mettez un prix carbone justement en Europe, il faut pas que ça donne des avantages pour d'autres pays dans le monde entier de produire justement comme ils veulent et avec une très grande émission de CO2. Donc, premièrement, c'est très important. Deuxièmement, c'est compliqué. Taxe carbone, bien sûr, parce que vous pouvez quand même entrer assez vite dans une guerre commerciale
avec les États-Unis, avec la Chine, et aussi de trouver quand même une façon qui peut être en ligne avec toutes les règles de l'Organisation mondiale du commerce, mais on peut aussi d'ailleurs changer les règles de cette organisation, ce qui est nécessaire. Et de toute façon aussi, les États-Unis et Trump ne s'intéressent pas trop aux règles. Mais c'est pas facile. Et déjà, pour dire ça, c'est pas facile si vous voyez déjà les différences entre Berlin et Paris, entre l'Allemagne et la France, parce que l'Allemagne, qui est toujours vraiment peur d'une guerre commerciale à cause de l'automobile, qui déjà laisse toute seule vraiment la France, que moi je trouve c'est une très grande faute, mais laisse seule la France avec la question de taxer les numériques, déjà, les GAFA, ouais, Google, Apple et toutes les autres grandes entreprises américaines, donc qui n'osent même pas ça. Je suis sûr que côté Berlin, ça va être pas facile, même si maintenant, et ça c'est bien, il y a une décision du Conseil du ministre franco-allemand de Toulouse de l'automne dernier, qui a dit tous les deux veulent travailler dans cet sens. Mais pour moi, de toute façon, là, c'est aussi déjà une sorte de première épreuve, parce que si c'est pas l'Allemagne et la France, si c'est pas ce tandem franco-allemand qui va tirer, qui va pousser ce European Green Deal, ce pacte vert européen, si c'est pas les deux, si c'est pas Paris et Berlin qui va aller en avant, ou qui vont dire toujours, oui, c'est pas notre faute, c'est les autres et tout ça, si c'est pas ces deux-là, moi, je vois pas comment ça pourrait être vraiment réussir.
Clément Sénéchal, justement, comment réussir avec toutes ces contradictions? Alors, j'ai bien compris, vous avez un point de vue évidemment plus militant, plus citoyen, mais comment réussir?
Pas militant, juste objectif. Moi, je défends juste ce que disent les scientifiques. C'est ça le travail de Greenpeace, c'est transformer en termes politiques ce que dit la science. Je voudrais rebondir sur un point. C'est effectivement le couple franco-allemand est clé, d'autant plus avec le Brexit aujourd'hui pour faire avancer l'Union européenne. Et là, on a un problème. Mais le problème, il s'appelle Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron.
Il s'appelle un peu aussi Angela Merkel, non?
Ouais, mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il utilise.
Vous faites une petite fixette sur
Emmanuel Macron.
Emmanuel
Macron.
C'est ça le problème.
Voilà. Emmanuel Macron, le problème, comme l'a dit mon interlocuteur tout à l'heure, c'est qu'il utilise aujourd'hui l'argument climatique et les négociations climatique pour vendre du nucléaire comme argument commercial pour sauver son industrie nucléaire coûteuse, vieillissante et dangereuse.
Alors
on peut dire
que Angela Merkel utilise ne pas taxer les GAFA pour vendre des automobiles.
Non, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est qu'évidemment l'Autriche et l'Allemagne, si c'est ça le jeu d'Emmanuel Macron, elles voudront pas avancer sur la question du climat. Et on a eu un Conseil européen qui est tombé pendant la COP l'année dernière où il était question de la neutralité carbone, et comme en sous-main Emmanuel Macron essayait de faire passer du nucléaire dans les deals climatiques avec la Pologne et le groupe de Visegrad, et ben voilà, les négociations n'ont abouti à rien, c'est-à-dire que les 27 n'ont même pas réussi à se mettre d'accord en réalité pour la neutralité en 2050, la neutralité carbone en 2050, puisque là, la Pologne a dit non, clause de révision en juin. Donc on verra ce qu'il en sera. Donc voilà, ça, là, aujourd'hui on a un problème avec Emmanuel Macron et l'hypocrisie d'Emmanuel Macron sur la question climatique. La France, déjà, manque de crédibilité sur ce sujet. La France réduit ses émissions de gaz à effet de serre moins vite que la moyenne européenne. La France se classe dernière de la classe avec les Pays-Bas sur le développement des énergies renouvelables, et la France prévoit de tenir ses objectifs 2020 sur l'efficacité énergétique, donc la réduction de la consommation d'énergie en 2027. Ça, c'est les trois piliers de l'action climatique européenne. Donc voilà, à un moment donné, à changer les choses au niveau européen, ça commence par être exemplaire au niveau national, et ça n'est pas le cas aujourd'hui.
Là, je crois que vous avez absolument raison. Par contre, il faut dire que Berlin et Angela Merkel, c'est pas mieux, on va dire. Donc c'est justement un des problèmes que si vous avez justement les couples franco-allemands qui sont parmi les mauvais élèves de la classe, dans la classe en Europe, alors, on a justement un problème. Donc ça,
est-ce qu'il y a un bon élève de la classe transition énergétique, Jens Althoff, ou...
Bonne question, je vois pas
l'Italie,
ça.
L'Italie, l'Espagne, contre, le Portugal peut-être.
L'Italie, c'est pas si mal d'ailleurs.
Le Portugal, le Danemark,
voilà, les pays du Nord. Mais vous avez quand même, je veux dire, parce qu'il faut pas, je trouve toujours un peu compliqué si on parle que des choses négatives, ce qui va pas. Parce qu'il faut quand même voir, et je trouve qu'il faut aller dans ce sens-là. Il y a des possibilités. Vous avez des traités d'Aix-en-Chapelle qui dit exactement qu'il faut avoir des projets vraiment phares entre la France et l'Allemagne. Ils sont commencés déjà avec un projet de batterie. Ça a pris un peu de temps et tout ça, mais c'est bien ce projet de batterie qui était vraiment mis avant par la France et l'Allemagne. Mais ce projet montre aussi, premièrement, c'est possible, mais il faut d'autres projets comme ça. Beaucoup, beaucoup d'autres projets. Il faut aussi des projets sur la technologie d'hydrogène, par exemple, qui est une technologie clé aussi pour la transformation. Il faut dans beaucoup d'autres, vous pouvez avoir, par exemple, une idée vraiment de maintenant que la France et l'Allemagne ensemble, ils vont mettre des infrastructures pour une mobilité électrique. Donc vous avez plein, plein de possibilités qui sont là sur la table.
Il faut le faire. Et c'est possible. C'est pas.
Si on compare l'Europe au reste du monde, l'Europe est quand même très très en pointe. Si on parle des Brésiliens, les Russes, les Turcs, les Chinois. Les Chinois font beaucoup d'efforts dans la transition énergétique, mais évidemment encore beaucoup de charbon chez eux.
Là, il faut dire tout simplement que c'est aussi l'Europe qui est une des plus grandes responsabilités. Hein, qui, vous voyez qui a émis tout ce qui est CO2 et qui a créé le problème de la crise climatique qu'on a et le réchauffement. Ça, c'était pas la Chine, hein. Ça, il faut le dire très clairement. Et aussi, la Russie a contribué un petit peu, mais c'était tout d'abord l'Europe, c'est tout d'abord les États-Unis, c'était des pays qui sont développés depuis très longtemps, qui ont la plus grande et la plus lourde responsabilité. Et c'est d'autant plus important que eux montrent que c'est possible vraiment de vivre, de produire. Et aussi vraiment de se transporter ou d'aller d'un point à l'autre et tout, avoir une mobilité, tout ça carbone neutre. C'est maintenant à l'Europe de montrer. Et c'est possible parce que vous avez, les solutions sont là, elles sont sur la table. Mais il faut le faire, il faut agir. Il faut agir et pas produire des jolies images. Comme j'ai vu la semaine dernière, Macron qui va au Mont Blanc pour montrer maintenant qu'il s'intéresse. Tout ça, ça m'a beaucoup fait penser à Angela Merkel qui était dans le Groenland en 2007. Et tout le monde assis, c'est la chancelière du climat. Et elle a mis des super objectifs en 2007. Et là, maintenant, elle n'arrive même pas à réaliser ses propres objectifs. Objectif 2020.
En tout cas, vous êtes d'accord que ça se passe beaucoup entre la France et l'Allemagne, susceptibles d'être moteurs et d'être pour le reste des Européens.
Mais dans l'action. Dans l'action et des projets concrets et des projets phares, et c'est possible.
Sur le rôle de l'Europe, effectivement, il est clé aujourd'hui dans les négociations internationales sur le climat. Le problème, c'est qu'elle n'est pas aujourd'hui en dynamique, l'Union Européenne, sur le climat. Elle baisse très peu ses émissions de gaz à effet de serre, c'est autour de 1% par an. Elle ne sait toujours pas, c'est le troisième émetteur mondial, l'Union Européenne. Et donc, elle est clé parce que après on a la défection des États-Unis et l'enjeu aujourd'hui dans les négociations climatiques avant la COP26, c'est d'emmener la Chine et l'Inde, les grands émetteurs. Et pour ça, il faut que l'Union européenne se conforme à l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'elle présente un nouvel objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et
alors,
ça,
si
il faut qu'il
compris,
le fasse. Il faut qu'elle le fasse avant le sommet européano-chinois qui aura lieu en septembre. Sinon, la Chine ne bougera pas. Et si la Chine ne bouge pas, ça veut dire que l'accord de Paris est très clairement en péril aujourd'hui.
Si l'Europe veut être modèle, elle doit être davantage modèle. C'est bien ça la conclusion?
Tout à fait. Si elle va être moteur, ça veut dire que la France et l'Allemagne doivent montrer l'exemple.
Merci. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier. Merci aux équipes audiovisuelles du Parlement européen à Strasbourg. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, soit le tout nouveau site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. On peut évidemment s'abonner au podcast de l'émission. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à Paris, Strasbourg, Bruxelles, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.